Donc merci à vous de vous être déplacés. La première délibération concerne... subvention exceptionnelle à l'association. Donc il s'agit d'accorder une subvention de 1 000 euros à l'association qui nous a demandé une subvention exceptionnelle pour son stage sportif de découverte à l'île Maurice pour faire de la plongée. Il finance une partie de ce voyage par un repas et des manifestations. Et puis il nous demande une subvention exceptionnelle et le bureau municipal a proposé de leur verser 1 000 euros. Qui souhaite intervenir ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Des refus de vote. C'est adopté à l'unanimité.
Ça, parce que moi j'ai toujours été assez attiré justement par les bons orateurs et les grands orateurs. Et donc là, c'était une comme j'aime bien aussi beaucoup parler, c'était une occasion de le faire de façon amusante, et puis de parler sur des sujets. Donc là, la politique, moi je suis un passionné de politique, donc c'était en plus l'occasion de faire sur des sujets que je connais bien et dont j'aime bien parler. Et c'est vrai que voilà, moi j'aime bien prendre la parole en public, et en plus c'est toujours un bon entraînement dès qu'on a des occasions de le faire. Moi je pense qu'il faut les saisir parce que c'est toujours très utile de s'entraîner à ça.
Ça concerne les ordures ménagères. Alors c'est quelque chose de très formel et administratif. Hein.
Alors, je vais vous faire le sujet sur les 5 poubelles dans ma cuisine. Alors, 5 poubelles dans ma cuisine. Pour quelle raison ? Cela suppose en effet de procéder à un tri sélectif très structuré de nos déchets. Certains vous diront que j'en ai déjà 5 dans ma cuisine, 5 dans ma maison, pas dans la cuisine. Dans la salle de bain, j'ai une poubelle. Dans la chambre, j'en ai une. Dans le salon, j'en ai une. Et dans la cuisine également. Donc pourquoi s'embêter ? Pourquoi continuer à avoir 5 poubelles chez moi et que dans la cuisine ? Alors, certains vous diront que pourquoi est-ce qu'on devrait s'encombrer davantage ? Pour quelle raison ? Cela signifie que tous les jours, une fois que j'aurai fini mon repas du midi ou du soir, il va falloir que je pense à savoir où est-ce que je vais devoir jeter mes objets. Dans quelle poubelle je devrais les mettre ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Dans quelle poubelle ? Trop de tracas, certains vous diront. Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier ? Alors que moi j'habite dans une rue où il y a une grande surface en face de chez moi, qui a les moyens mais qui ne trie pas. Qui peut trier tous les jours, mais qui ne le fait pas parce que ça lui prend trop de temps. Elle ne s'en soucie pas. Alors pourquoi est-ce que moi je le ferais ? D'autre part, certains vous diront que mon voisin qui habite juste en face de chez moi ne s'en préoccupe pas également. Donc pourquoi est-ce que moi je le ferais ? De plus, dans l'absolu, qu'aurais-je à y gagner ? Depuis tout le temps, depuis plus de 10 ans, on a tous jeté nos poubelles dans la même poubelle. Ça n'a jamais créé de difficultés. Ça n'a jamais posé de problème. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je devrais m'enquiquiner, aller jeter mes objets dans 5 poubelles ? Pourquoi ? D'autre part, ceci en plus a un coût. En effet, trier nos déchets, cela a un coût et ce sera moi qui devrai le supporter au final. Et donc, je vous le dirai, non, je n'ai pas envie de trier mes déchets. Ça coûte trop cher, trop de tracas, c'est trop long, c'est trop embêtant. En revanche, certains pourront vous dire que cela est nécessaire, en effet. Ça permet d'obtenir des recyclages des déchets, en effet. Trier le verre, ça permet de le recycler et de faire autre chose avec. Avec du verre, on peut créer, peut-être des pulls, j'en sais rien, avec de l'aluminium, autre chose, avec des piles, autre chose. Donc c'est toujours utile. D'autre part, recycler le verre qu'on a déjà utilisé permet de moins en créer, donc de moins le brûler et donc de moins en reproduire, donc forcément de moins attaquer la terre. En effet, aujourd'hui nous sommes dans un cycle où les pouvoirs publics ont tendance à de plus en plus s'en préoccuper et d'en faire une cause nationale. Prenez pour preuve le Grenelle de l'environnement. Alors si les pouvoirs publics s'en mettent, c'est qu'il y a forcément une idée derrière, c'est que ça devient grave. En effet, la Terre aujourd'hui est en train de se réchauffer. Et en grande partie, c'est à cause de l'être humain. Donc, il faut arrêter de penser à nous-mêmes, il faut penser à nos enfants, à nos petits-enfants, et leur laisser une Terre correcte. Certes, aujourd'hui, nous vivons en France, nous vivons dans un pays où il n'y a pas forcément des conséquences du réchauffement climatique. Alors que, par exemple, au Sahara, le désert se développe de plus en plus. Vous allez au pôle Nord, la banquise fond de plus en plus. Donc c'est sûr que nous, ça ne nous cause pas de problème. Mais pour d'autres populations, en effet, cela est un réel problème. Donc certes, c'est toujours embêtant de devoir se soucier tous les jours, de devoir jeter des objets. Mais je pense, mes chers amis, qu'aujourd'hui, il faudrait éviter de penser uniquement à nous. Il faudrait plutôt voir, penser aux autres, penser à nos enfants et à d'autres populations. Donc dans ce cas, je pense que nous devons trier nos déchets et avoir 5 poubelles dans nos cuisines.
Oui, bon, effectivement, sur la forme, il y avait des gestuels un peu de repli, pas de repli, mais enfin, t'étais pas ouverte en tout cas. T'avais des jambes croisées, tu l'as dit toi-même, tu regardais dans le vague et pas des personnes prises individuellement. Mais, donc ça c'est la forme, et la construction de ton intervention était très intéressante, j'ai trouvé. Parce qu'au début, on a vraiment eu l'impression que tu étais complètement hostile à ce problème du tri sélectif. Et tu l'as fait avec beaucoup d'humour d'ailleurs, et c'était assez sympathique. Et puis après, tu as réussi à élever le débat justement sur des enjeux planétaires, enfin des enjeux écologiques et qui doivent l'emporter sur ces préoccupations un peu individuelles. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant en tout cas, comme démonstration sur ce sujet.
Bon, l'essentiel a été dit. Effectivement, c'est très intéressant de faire du thèse, antithèse, synthèse. La chose que je pourrais te reprocher, c'est d'avoir été un peu trop... blanc, noir, trop manichéenne sur les 5 poubelles ou pas de tri du tout et le laisser-faire complet et en opposition les 5 poubelles. Donc ça a été un peu trop tranché. Je suis plus fanatique des argumentaires qui vont un peu à droite, qui vont un peu à gauche.
Quand on aime quelque chose, quand on veut défendre des idées, les mots viennent facilement pour soutenir ce qu'on soit bien, s'énonce clairement. Disait, c'était Bossuet, je crois. Non, Boileau.
Donc voilà, c'est le reproche que je te fais. Bon, après, on sentait que tu étais un petit peu stressé. On te le reproche pas, je te reproche pas, c'est normal. C'est parfois bénéfique. Quelques petits types de langage. Tu dis assez souvent, en effet. C'est un petit type de langage, heureusement c'était pas trop visible, je l'ai pas compté. Quand c'est trop visible, je le saute. Voilà. Bref. Globalement très positif. Voilà.
Établi d'une part pour le transfert d'emprunt afférent aux deux déchetteries et la station de transfert et les déchets ménagers recyclables.
Donc l'idée c'est vraiment voilà, c'est quand on a envie de défendre quelque chose, spontanément les mots viennent facilement. Après il faut avoir toujours un peu de vocabulaire, de façon de parler, d'habitude de parler qui sont nécessaires, mais ça se fait finalement assez simplement et de façon très spontanée.
Chers amis, depuis quelques jours, j'ai arrêté de fumer. Vous savez quoi? Je me sens mieux. Je survis, je respire. Qui dit développement durable dit environnement. Et qui dit environnement, dit réduction de la pollution et donc régulation des transports. Nous avons vu ensemble depuis quelques années, nous avons vu ensemble le temps perdu, chaque matin en allant au travail. Nous avons souffert ensemble, le soir, exténués. Je ne crois pas que nous soyons de ceux qui considérons que tout ce qui vient de l'extérieur est dangereux. Nous devons laisser ouvertes les portes de la ville et favoriser son développement, son enrichissement. Vous qui êtes là ce soir, est-ce que vous êtes venu en transport en commun ou est-ce que vous êtes venu seul dans votre voiture? Est-ce que vous avez joué le jeu de l'avenir? À partir de maintenant, si chacun de nous montre un exemple, montre l'exemple de prendre les transports en commun, mais grâce à nous, grâce à vous.
Moi, je fais partie d'une commission qui s'appelle la commission Affaires sociales et santé. Et moi, je ne suis pas un grand expert de ça, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, mais ça m'intéresse beaucoup au point de vue politique. Et justement, il y avait dans cette commission beaucoup d'experts médecins qui sont très engagés dans le milieu associatif. Souvent, les médecins le sont beaucoup. Le fonctionnement du parti veut ça, c'est que c'est souvent les cadres qui parlent le plus en public, que plus on... Que, c'est avec l'expérience de la politique qu'on va être amené au bout d'un moment à parler, à s'exprimer en public, alors être animé des réunions publiques, jusqu'à faire des discours dans des congrès ou ce genre de choses internes au parti. Quand on est assez jeune, même si moi ça fait un petit moment maintenant, ça fait 5 ans que je suis dans le parti, on n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer de façon publique, d'exposer ses idées et donc d'être finalement tête de pont face à des personnes un peu extérieures et même voire par rapport à des personnes intérieures. On peut avoir des prises de parole dans des réunions ou ce genre de choses, mais c'est très limité et on n'a pas de préparation à ça. C'est vrai que c'est un côté très frustrant. Très frustrant. Moi, j'aimerais bien avoir plus souvent l'occasion justement d'aller voir, d'avoir un public, d'être confronté, puisque c'est un des axes de la politique. Quoi. C'est quelque chose de très important dans la politique, la partie publique, très importante.
Et après, tu corriges légèrement s'il y a quelques fautes.
Après, je sélectionne des passages. Oui, d'accord. De toute façon, il n'y a pas de... L'ordre qu'on prend là d'enregistrement n'est pas diffusé.
Et oui. Une dernière question. Est-ce qu'après, ça sera présenté par écrit ou...
Non, à la radio.
À la radio. Oui, ah, d'accord. Oui. Mais il faut que je fasse attention à mon langage.
Absolument.
je suis tout à fait d'accord que l'art de parole peut être pris dans le double sens. C'est-à-dire que uniquement l'art de savoir parler et de ne rien faire derrière et aussi... également savoir parler et inciter à l'action. Donc, certainement, et c'est une opinion certainement qui existe dans le grand nombre de gens, on conçoit la politique uniquement comme l'art de parler, se mettre en avant personnellement et acquérir certaines positions sociales et politiques uniquement pour résoudre ses propres problèmes et avancer dans la carrière.
Et d'autre part, pour le remboursement des cotes-parts d'emprunt correspondant au parc d'équipement en silo pour apport volontaire, en bac roulant pour collecte à porte-à-porte et en conteneur à pile installé.
C'était marrant, les différentes stratégies rhétoriques.
Donc la délibération, c'est autoriser le maire à signer cette convention et elle précise donc que les dépenses et les montants seront inscrits au budget de la communauté urbaine. C'est une convention pour régler un problème strictement administratif. Qui souhaite intervenir ?
Moi, je sais que j'aime bien les assistants.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Des refus de vote. C'est adopté à l'unanimité.
Donc, et c'est justement cette position-là que j'aimerais bien de vouloir changer, transformer dans la conscience des gens. Et je vois que les jeunes personnes me suivent plus facilement dans cette démarche que l'art de la parole. Ça ne sert pas uniquement pour se mettre en avant, pour son propre plaisir de se mettre devant le public, mais inciter à l'action, de programmer une action, de la provoquer. Et donc, c'est pour ces raisons-là, dans les valeurs de jugement de ce concours, on a mis en avant, avant tout, la qualité humaine de chaque participant. Donc, c'était la première qualité jugée parmi les participants du concours.
Bonsoir aux honorables membres du jury, bonsoir à l'aimable assistante. Je vais également parler de l'université. Donc, l'université, ancien lieu d'échange et de diffusion du savoir, qu'est-elle devenue ? Elle n'est plus désormais que la piètre, qu'une piètre image d'elle-même, une ombre pâle et bien palichonne. Elle n'est plus désormais que le lieu d'entassement de la misère étudiante. Regardez donc ces hordes de Sorboniens. Quel triste sort leur réserve-t-on ? Étudier dans de précaires situations. Qui peut rêver d'un tel avenir ? Et quel avenir leur propose-t-on ? Obtenir un diplôme au rabais, synonyme de galère future,
et de chômage. Car oui, c'est là, le chômage. Le chômage de toute cette jeunesse qui n'a plus d'espoir. Déjà qu'ils doivent se trimballer de petit en petit boulot. Être dans des studios plus que petit et ridicule. Est-ce cela que la France propose-t-elle à sa jeunesse? Que notre grand pays, plus que millénaire, qui a connu Napoléon, Charles de Gaulle, et encore tout le roi de France, Louis XIV, Louis XIII, ou même Richelieu, ou Mazarin. Est-ce cela que la France peut-elle offrir à sa jeunesse, fer de lance de sa future nation, et surtout fer de lance de la grandeur de notre pays? Non, cela n'est point admissible, je ne l'accepte pas. Vous ne l'acceptez pas, nous ne l'acceptons pas. J'aime profondément la France, c'est dans mes tripes, c'est même physique. La France, dès qu'une seule chose, c'est que je la prenne. Je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais gros, qu'il pouvait copuler avec la France. Ces termes étaient plus orduriers. Et je pense que j'aime aussi cette France de cette manière-là. Je ne sais pas si elle attend que je la copule avec elle. Même si intrinsèquement mon ambition le voudra bien, je suis humble dans le fait, je ne pense pas, du moins à l'heure actuelle, mais je pense que j'aime profondément et amoureusement la France. Il faut redonner de l'espoir, de la dignité à notre jeunesse, lui proposer un avenir. De plus, cela permettrait une meilleure gestion des ressources humaines, ainsi que de leur patrimoine immobilier pour celles qui le voudraient ou le désireraient, tout en permettant aux universités qui n'en ont pas les moyens de ne pas s'entraîner dans tout cela, notamment ces petites universités. Il faut aussi reconsidérer...
Quand Yannick a commencé à faire sa prestation, j'ai tout de suite compris, et j'étais pas la seule à le comprendre, tout le monde l'a tout de suite compris, que c'est un excellent acteur. Donc il prend la parole au public comme une prestation personnelle, une prestation légèrement, on peut pas dire égoïste, mais c'est dans la nature de l'acteur de vouloir présenter soi-même. Donc son message un peu passé derrière sa personnalité. Et c'est ce que je lui dis, que quand tu parles devant un nombre de personnes, il faut que tu t'imagines d'être dans un dialogue à tête à tête. Donc tu choisis une seule personne dans la salle à qui tu fais confiance et tu lui racontes ton histoire, tu racontes ce que tu as envie de raconter. Donc du coup, ton langage deviendra beaucoup plus naturel, beaucoup plus convivial, beaucoup plus simple, et tu arriveras à transmettre ton idée, à convaincre la personne, parce que convaincre le grand nombre du public, c'est, au début de la carrière, ça peut paraître un peu difficile, compliqué, parce qu'on ne sait, pas à qui on s'adresse. On n'a pas un interlocuteur clair, défini devant nous.
Je te dirais qu'à la limite, si j'étais hors format, on l'était quasiment tous. Bon, du concours d'éloquence, parce que, comment dire, c'était assez théâtral. On était tous théâtrales. Bon, faut aussi que c'était ma première prestation. J'ai aussi un style assez particulier, qui est assez dans la provocation et qui est assez théâtral. Bon, faut dire aussi que j'ai aussi un certain talent pour le comique. Donc, vous voyez aussi que j'en joue. Après, ça se travaille. On était quasiment tous sur format. Sauf à la limite, Laura May, qui elle a un peu plus d'expérience que nous, qui a gagné le concours et qui était absolument excellente, qui était l'une des meilleures. Je trouve comme l'a dit parfaitement Armand Hénon, on est six qui se sont. Nous sommes six que nous nous sommes détachés. Bon, c'était très dur à juger. Donc voilà, à la limite, je pense qu'on aurait tous mérité de gagner. Et là, c'est vrai que j'ai pas pu gagner. Bon, c'est le jeu. Je reviendrai l'année prochaine. Faut dire aussi que moi, comme je l'ai dit parfaitement, j'étais presque venu quasiment à l'improvisation. Et on m'a dit que pour quelque chose d'improvisé, c'était déjà très bien. Et faut dire que c'est peut-être ça aussi qui m'a pas fait gagner. Mais bon, je pense que non. Je pense qu'on était tous à la limite hors format. Je pense que même, j'ai déjà eu quelques expériences, j'ai déjà fait plusieurs interviews, notamment le jour du premier tour, où vous voyez que j'étais parfaitement cadré dans le format qui était donné.
Bon, là, j'ai la chance, par exemple, là, de pouvoir un peu partir, un peu dans tous les sens. Là, c'est vrai que je suis peut-être pas forcément dans leur format. Mais c'est vrai que quand on me demande d'être parfaitement cadré, je pense que c'est aussi l'habitude aussi du militant politique que d'être parfaitement dans le format.
Oui, vous rigolez, mais prenez bien en compte la situation. L'université produit elle-même des ingénieurs, comme font les grandes écoles. Et le plus drôle dans cette situation, c'est qu'en l'espace d'un siècle, le nombre d'étudiants dans les grandes écoles n'a pas augmenté. Tandis que, à l'entrée de l'université, il a plus qu'été multiplié par 10. Il y a donc un problème. Pourquoi pas supprimer ces grandes écoles ? Personnellement, je n'ai pas de solution, et cela devrait être vu, cela devrait être discuté sans tabou ni sans idéologie. Il n'y a pas de solution toute faite que le bon Dieu m'a inspiré. Non, il n'y a qu'une seule solution, le débat et le dialogue entre tous les acteurs. Et de même, il faut aborder le problème de la sélection à l'entrée de l'université et de l'augmentation des frais d'inscription sans idéologie. Donc à partir de cela, quand je constate que beaucoup d'étudiants n'ont pas le niveau, et comme l'a dit celle qui m'a précédé, pour que la fac remette à niveau, non, c'est au lycée d'assurer cette mission. En plus de cela, un étudiant moyen en France coûte 6 000 euros, pour un lycéen qui coûte 15 000. La moyenne de l'OCDE est à 12 000. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'État n'assure pas les moyens. On peut très bien penser un partenariat entre le privé, les entreprises, et l'enseignement supérieur public. C'est déjà le cas et cela marche. De plus, en plus de permettre de l'injection de l'argent, cela assure également aux étudiants un contact futur avec leurs employeurs. Donc cela permettrait de leur assurer un meilleur emploi qu'ils l'ont déjà. Doit-on rappeler le fameux chiffre de 70% d'échecs dès la première année, mais doit-on voir aussi le nombre de chômeurs avec un bac plus 5? C'est colossal. C'est même énorme. À partir de ce moment-là, l'enseignement public, car doit-on le rappeler, l'enseignement supérieur prépare, en clair, mais ceci est un autre débat. De plus, l'un des grands problèmes également qui n'est pas mis en place, les étudiants doivent être orientés, c'est une question et même nécessaire. Quand on voit qu'un étudiant en terminale, on dit « mon bras, va t'inscrire ». Et cela se passe encore mieux au moment de la première année. Doit-on rappeler, on dit 70% d'échec la première année. Il faudrait même mieux assurer. À l'heure où on parle de déclin, de décrochage économique de la France, si nous ne donnons pas espoir à notre jeunesse, donc pour éviter ce déclin, certains annoncent comme une chose inévitable et naturelle. Et si je peux me permettre, vive la France et vive la République.
Le conseil que je donne, j'ai donné à Yannick, et justement, c'est, j'ai compris qu'il sera enfermé à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son personnage, qu'il a magnifiquement bien joué, à cause de manque de confiance envers la personnalité qu'il a en face. Et je lui dis qu'il faut parler à une personne comme s'il était dans un rendez-vous, dans un restaurant, qu'il a raconté un problème. C'est là qu'il aurait gagné.
Quoi qu'il en soit,
il a progressé dans ça, mais pas suffisamment. Je pense qu'il y a un grand travail à faire dans ce sens-là, de le faire comprendre à concevoir le discours politique comme un dialogue avec un interlocuteur précis, même s'il est multiple, même s'il n'y a pas une seule personne en face. Mais quand même, essayer de trouver un visage de 100 personnes, de 1000 personnes qui a quand même un visage bien défini.
Et je vous parle d'autant mieux de ce sujet-là que je suis moi-même étudiant en histoire. On va dire qu'il fallait à peine parler deux minutes, il fallait donner une vision très très claire du parti, de la position politique. Il faut dire qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de militants qui partaient un peu dans tous les sens. C'est vrai que les formats, ne serait-ce que la radio formate. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le débat politique, à l'heure actuelle, et comme c'est passé, c'est devenu un débat soit de communication, soit une posture médiatique. C'est surtout devenu un débat de posture.
Alors, vous savez que au dernier budget, avec les conséquences que ça a pu avoir sur la feuille d'impôt des contribuables, notamment en ce qui concerne le foncier bâti. Donc il s'agissait d'une erreur administrative, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai écrit. Aujourd'hui, pour que ces choses-là ne se renouvellent pas, il est proposé de remettre dans le budget municipal une partie qui s'élève en gros au montant de l'éclairage public. Bon, ça ne nous rend pas plus riches ni plus pauvres, c'est uniquement un problème comptable. Qui souhaite intervenir? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Des refus de vote. C'est adopté à l'unanimité.
Et donc voilà, moi je m'étais retrouvé face à ces personnes-là, la plupart la cinquantaine, la quarantaine, et moi le petit jeune. Et on m'a demandé un jour mon avis. Alors, première fois qu'on m'a demandé, j'ai un peu passé mon tour. Mon avis était vraiment pas du tout important par rapport à celui des experts que j'avais à côté de moi. Et puis petit à petit, cette même réunion, en prenant un peu d'assurance, en me disant qu'après tout, il fallait bien que je commence un jour à donner mon point de vue, parce que sinon, ça ne servait à rien d'être là juste en public. Et donc j'ai fini par prendre la parole. Et c'est vrai qu'au début c'était très déroutant. Je pense que ce que j'ai dit devait pas être très intéressant. Ça devait pas être très bien dit. Mais c'était, je pense que c'était une forme de façon de se lancer dans le. Puis après, au bout d'un moment, ça finit par venir tout seul. Et c'est vrai qu'au début, je pense que on a la tête qui chauffe un peu. On n'est pas hyper à l'aise dans ce qu'on dit. Et puis bon.
Globalement, moi j'ai globalement peu de choses à reprocher, pas mal de choses bien. On sent qu'il y a une maîtrise. On sent qu'il y a une maîtrise et qu'il y a la bouteille. Bon, un petit souci par contre, je sais pas si tu as fait du football, mais en tout cas je trouve que tu couvres très bien le terrain. Donc tout ça pour dire qu'effectivement tu as fait pas mal d'oscillations de gauche à droite, de gauche à droite.
Et si la France marche pas? Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien qu'on ait un pays complètement schizophrène, névrosé, dépressif.
Et c'est une autorisation de dépôt de permis de construire, donc vous savez que...
Mais elle est nulle part, l'égalité. Qu'est-ce que c'est que la société française, sinon une société d'héritiers sclérosés, où l'ascenseur social est bloqué au moins deux d'un, je sais pas moi, d'un garage Vinci complètement pourri. Enfin voilà.
Et puis donc, tout n'a pas été vendu et tout n'a pas été signé. On a signé que des compromis de vente, on n'a pas signé des actes de vente. Et donc...
C'est-à-dire qu'on utilise des mots qui sont la base de notre pacte social, tout ça pour légitimer une société qui est totalement contraire aux idéaux qui la légitiment.
La copropriété a déposé un permis de construire puisqu'ils ne sont pas encore tous propriétaires. Bon, ça fait partie des choses qu'on fait en général, on autorise le dépôt de permis de construire, même si les actes de vente n'ont pas été signés, et ça leur permet d'avancer dans leur dossier. Voilà, donc ça ne nous coûte rien, juste un acte administratif, mais il faut délibérer.
C'est juste que la société, c'est le dernier psychotrope, c'est le Prozac de la société française, tout ce qui fait qu'il fait encore un peu tenir, parce que les principes, c'est la dernière chose à laquelle on se rattache un peu. Tout ce qu'on utilise, c'est les mots pour dénier la situation qu'on refuse de voir. C'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut un peu de courage intellectuel, d'honnêteté.
Tu veux partir, André? Vas-y, on te libère. Le quorum est toujours atteint puisqu'on est 15 sur 29. Qui est contre? Qui s'abstient? Tu refuses de vote? Unanimité. Merci.